Bonjour le Book Club.
Hey le Book Club.
Bonjour Marie et bonjour le Book Club.
Bonjour à toute l'équipe du Book Club.
Ça y est, le Book Club est prêt.
Bonjour le Book Club, j'espère que tu as passé un bel été.
Je me souhaite plein de belles découvertes, de grandes joies et des lectures qui changent la vie.
À nous faire lire, à nous surprendre.
Je vous souhaite une belle rentrée, pleine de livres évidemment.
Que cette nouvelle saison soit aussi riche et inspirante que les livres que vous nous faites découvrir.
Un petit message de bonne rentrée, car elle s'annonce cette année aussi enthousiasmante qu'éclairante, emportante, passionnante, diversifiante.
Avec des nouveautés ou des textes beaucoup plus fondamentaux pour la littérature en général.
Hello le Book Club, je vous souhaite une superbe rentrée et je souhaite à toutes les auditrices et auditeurs de lire et de voyager loin, très loin avec vous.
Ça va être très bien tous ensemble.
Bonjour le Book Club, bonjour Yakuta Alikavazovic. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison. J'ai donc lu Au Grand Jamais, ça a été pour moi un moment de lecture très fort. C'est une lecture qui m'a vraiment traversée. Elle continue de m'habiter encore quelques jours après et je continue de me poser des questions.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il y a des voix dont on attend le retour, curieux de la manière dont elles vont poursuivre leur œuvre. C'est le cas de Yakuta Alikavazovic qui construit depuis plus de 20 ans un monde récompensé par divers prix littéraires où la fiction est reine, même quand elle s'arrime à la biographie. Un monde qui nous révèle toujours plus à notre part d'invention. Les histoires qu'on se raconte pour s'aider à vivre y miroitent d'un scintillant vrai-faux. On n'est jamais vraiment sûr de ce qu'on vient de lire, rien ne s'y attrape jamais définitivement et c'est pour ça qu'on y repense. C'est pour ça qu'on y revient. Dans son dernier roman paru chez Gallimard en cette rentrée littéraire, Au Grand Jamais, c'est la disparition d'une mère, poétesse n'écrivant plus, qui lance l'énigme. Une mère, c'est mystérieux. Une guerre au loin, c'est mystérieux. Ceux qui prennent soin de l'obscurité de la nuit, c'est mystérieux. Et l'émotion qui, au rebond d'une phrase, vous saisit, c'est le mystère que je préfère. Yakuta Alikavazovic est notre invitée aujourd'hui. Quel plaisir de se retrouver. Bienvenue dans le Book Club.
Merci Marie, merci, joie partagée.
Et donc, bonjour, Yakuta.
on brûle les étapes, mais oui, je sais pas, je vous regardais, j'étais heureuse d'être là.
Vous avez vu ce que fait la lumière? C'est incroyable.
C'est incroyable.
Surtout qu'il est question de lumière dans ce très beau roman, Au Grand Jamais, vient de paraître aux éditions Gallimard. Il sera au cœur de notre conversation dans un instant. Mais ici, au Book Club, je le dis pour celles et ceux qui nous découvrent, et j'espère qu'il y en a, tout commence toujours par ce qu'on appelle le questionnaire lecture. Il s'agit de faire connaissance avec nos invités en tant qu'ils sont des lectrices et des lecteurs, peut-être en écoutant les livres qu'ils ont ou non rencontrés sur leur chemin. Il se trouve que dans votre livre, l'objet livre a son importance. Je pense à plusieurs choses. Je pense à une vision, une sorte de tableau vivant ou un livre pour enfants attend comme ça sur le rebord d'une fenêtre. Je pense à un personnage que j'adore qui s'appelle Sacha et qui dit toujours « Moi, les livres, je n'y connais rien ». Je pense évidemment à la narratrice et à sa mère qui entretiennent avec la littérature une relation d'exception, chacune à sa manière. Si vous deviez, vous, essayer de définir pour nous, Yakuta Alikavazovic, votre relation à ce drôle de truc, ce drôle d'objet qu'est un livre, qu'est-ce que vous pourriez dire ?
Le livre, c'est tout. C'est tout à partir du moment où on l'ouvre, j'ai envie de dire. Mais c'est tout aussi... Enfin, ça, c'est mon idée de lectrice. Maintenant, il paraît que le simple fait d'avoir un livre à côté de soi, ça fait du bien.
Moi, j'y crois.
Sans doute. Peut-être. J'aime bien les ouvrir. J'aime bien les... Alors, comment je me définirais comme lectrice? Je suis une grande lectrice. Je suis un peu anarchique dans mes lectures. Je lis beaucoup de choses en même temps. Il m'arrive, attention, de lire la fin d'un livre avant de lire le début. En tout cas, je lis et j'ai beaucoup lu. J'étais une enfant qui lisait beaucoup.
Vous gardez des souvenirs de ces lectures d'enfance ?
Ah, je garde plus que des souvenirs. Je garde des sensations très fortes de lecture d'enfance. Le livre pour enfants dont il est question dans Au Grand Jamais est l'une de ces lectures. Et c'est presque des espèces de bulles de sensations comme ça, qui sont des souvenirs à part entière, des vrais souvenirs de l'esprit et du corps. Et parfois, j'ai même réticence à retourner, à les rouvrir, à les relire, parce que je sais que ma lecture d'adulte, mon regard d'adulte, ne les lira plus de la même façon. Je ne ressentirai plus les mêmes choses et je veux garder ce que j'ai éprouvé.
Est-ce que vous cherchiez quelque chose, enfant, dans les livres, puisque vous dites que vous en lisiez beaucoup ?
Je cherchais l'aventure dans les livres. Mmh. Je cherchais l'aventure, j'aimais bien le défi, j'aimais les livres interdits, j'aimais les livres pas de mon âge, j'aimais les livres qui se trouvaient sur la plus haute étagère de la bibliothèque. Et donc il fallait escalader des choses et mettre ses petits pieds à des endroits où... J'ai toujours des petits pieds, donc c'est pas une question d'âge. Mais mettre ses pieds à des endroits qui n'étaient pas faits pour ça, ce qui a entraîné quelques éboulements.
Des chutes.
Quelques chutes, mais rien de grave.
J'en déduis qu'il y avait des livres chez vous. Il y avait des livres là où vous avez grandi.
Oui, il y avait des livres à la maison. C'est une chose qui a toujours été présente à la maison. Et les livres n'ont jamais été sacralisés. C'est-à-dire que dès petite, j'avais le droit de manipuler les livres. Même sans les lire, même juste pour regarder une petite photo. Vous vous souvenez les vignettes d'écrivains sur les livres, comme on était, il n'y avait pas Internet encore. Et si on voulait voir à quoi ressemblait, un auteur, il fallait espérer que l'éditeur aurait mis sa photo en quatrième. Alors je regardais toutes les photos des écrivains en me disant, mais c'est comment un écrivain? C'est quoi?
C'est marrant quand même qu'on y viendra évidemment à ce personnage de Sacha, mais c'est une phrase répétitive, c'est une sorte de gimmick, c'est presque une comptine, et cette forme-là a quelque chose d'important dans la structure de Au Grand Jamais, qui ne cesse de dire, moi les livres, je n'y connais rien. Évidemment, on sourit en lisant cette phrase-là, mais on ne peut pas imaginer qu'elle est là pour rien. Cette grande répétition de les livres, je n'y connais rien, raconte quelque chose, Yakuta Alikavazuk, ce serait quoi?
Mais bien sûr, Sacha, c'est un personnage qui m'est très cher dans le roman. C'est le double, c'est presque une sorte de frère adoptif de la narratrice. Ils ont suivi deux voies tout à fait différentes. La narratrice est romancière. Sacha, lui, il est agent de sécurité. Voilà, il vigile dans des ici et là. Et puis effectivement, il répète, moi les livres j'y connais rien. Bon, c'est ton truc, moi les livres j'y connais rien. Mais évidemment, on peut ne rien connaître aux livres et tout comprendre au monde. Et la voix de Sacha, c'est le contrepoint à celle de la narratrice. En fait, pour construire un monde et une vision du monde, et c'est ce que la narratrice s'efforce de faire dans Au Grand Jamais après la mort de sa mère, pour construire une vision du monde, on s'appuie sur ce qu'on a. On s'appuie sur alors la culture, oui, bien sûr, mais on ne comprend pas le monde, on ne perçoit pas le monde, on n'éprouve pas le monde qu'avec la culture. Et donc ce Sacha qui n'arrête pas de dire « moi les livres, j'y connais rien », c'est en fait une voie de sagesse qui ne passe pas par le livre, qui ne vient pas s'inscrire sur une page, qui ne répond pas à ces codes-là, et qui pourtant a une espèce d'intuition de ce qu'est la poésie et de ce qu'est le roman, qui n'est pas limité à l'objet livre et à l'attachement symbolique qu'on y porte. Et ça, c'était très important pour moi de construire un personnage comme celui de Sacha, qui a un rapport intuitif, sauvage au monde, à l'émotion, et qui est presque une espèce de grand écrivain qui n'écrira jamais.
Oui, et qui le lit, ce monde-là. Par ailleurs, Sacha n'est pas très loin de sachant. Il a beaucoup de savoir dans ce roman-là où tout le monde semble avoir perdu la clé de ce qui est vrai et faux. Et puis, il n'y connaît peut-être rien au monde, mais c'est celui qui raconte le plus d'histoires. C'est celui qu'on écoute.
Mais oui.
Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans le personnage qui ne lit pas. Au Grand Jamais, on y viendra aussi, mais j'en profite parce qu'il nous donne ce roman plein de pistes pour vous interroger sur votre rapport à la lecture, Yakuta Alikavazuk. Sur ce livre-là, plane la menace de la fin de l'écriture, la menace de la fin tout court, la menace de la disparition. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne plus lire? Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où vous avez déserté ce monde-là?
Oui, ça m'est arrivé, ça a dû m'arriver. J'en garde pas beaucoup de souvenirs parce que... Mais enfin bon, c'était pour la bonne cause. Hein. J'avais mieux à faire, sans doute. Je devais être très amoureuse ou être en train de nager. Enfin, je sais pas, des choses comme ça. Toute la vie est dans les livres, ça je le pense. Mais toute la vie n'est pas dans les livres à chaque instant. Et il faut la vivre quand même, cette vie qui est la nôtre et que les livres multiplient.
Est-ce qu'il y a comme ça des livres importants qu'il y aurait eu sur votre parcours? Vous êtes romancière, autrice, je le disais, j'ai dit plus de 20 ans, je sais pas si...
Je sais pas, ça m'a semblé beaucoup.
Ouais,
Marie.
Alors au départ, c'est sur ma feuille, mais parfois j'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Il y avait marqué presque 20 ans, ce qui était peut-être plus raisonnable quand même. Voilà, parce que 2007, l'apparition de Corps volatile, parce qu'il y a quelque chose du début de l'écriture qui se situerait là-bas, mais bon...
Très bien. Moi, voilà. Je ne crois pas autant, de toute façon.
De toute façon, il viendra, vous verrez que...
Gardienne de la chronologie, moi, ça ne m'intéresse pas.
Mais il y a donc ce grand parcours d'écriture, et puis il y a aussi votre grand parcours de traductrice, Yakuta Likavazovic, qu'on vous a notamment entendu aux côtés de Mohamed Bougarsar, dans une émission que j'invite tout le monde à réécouter à propos de Beloved, de Toni Morrison. Est-ce qu'il y a des livres importants que vous avez trouvés en tant que lectrice sur votre parcours, que vous voudriez comme ça mettre en étoile, en constellation de cette émission?
Oui, certainement. Mais alors, par où commencer? Ça, c'est les questions pièges, parce qu'ensuite, on a toujours l'esprit de l'escalier. On se dit, mais pourquoi? Mais évidemment, mais enfin. Voilà, je commencerai par Proust. Et c'est c'est sans snobisme que je dis ça, parce que moi, Proust, je voulais pas le lire. Et puis, c'était un monument, ça représentait quelque chose de trop chargé. Et quand j'ai commencé à lire Proust, je me suis rendu compte que c'était pour moi, cette phrase était pour moi. Et je m'en suis pas rendu compte la première fois, les quelques premières fois où j'ai commencé à lire Proust, je voyais rien. Et littéralement, je ne voyais rien. Et en fait, il a fallu que mon œil s'ajuste à la phrase de Proust, comme on ajuste une focale, comme ça. Et à partir de là, c'était extraordinaire. C'est un grand, grand déchiffreur de monde. Et puis, c'est quelqu'un qui nous apprend ce que c'est que de vivre dans le temps. Et ça, c'est très précieux.
Auquel vous ne croyez pas?
Je n'y crois pas, sauf quand c'est Proust qui m'en parle.
À quel moment vous faites cette découverte et à quel moment vous réglez votre focale sur la phrase de Proust?
Je sais pas, je dois avoir une petite vingtaine d'années. Alors, je ne crois pas avoir fait ce truc qu'on fait parfois et que j'ai peut-être fait pour d'autres auteurs, sans doute même. Je ne crois pas avoir fait semblant d'avoir lu Proust. Mmh. C'était pas... je ne sais pas. Et de le découvrir comme ça, ça a été extraordinaire parce qu'en fait, j'avais une idée fausse. Voilà, tout simplement. Et quoi de mieux pour la détromper que de se plonger dans le texte lui-même. Et ce rythme de phrase, c'est extraordinaire. C'est comme... C'est comme de se découvrir une espèce de supervision.
Vous dites c'était trop grand, c'était trop un monument, j'avais pas envie d'y aller. J'ai presque envie de rajouter c'était trop français. Yakuta Likavazovic à la recherche du temps perdu, Marcel Proust. La narratrice, j'y reviens, de Au grand jamais, elle raconte que sa mère lui a raconté qu'elle a été aux funérailles de Jean-Paul Sartre et que ça l'a placée d'une certaine manière, cette narratrice, dans ces monuments, dans ce sillon de ce que c'est que la littérature française. En tant que lectrice, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible, cette idée de la littérature française? Ça se voit pas à la radio, mais je fais des espèces de guillemets avec mes doigts.
Si j'y suis sensible, c'est plutôt pour faire un pas de côté, je pense, par rapport à cette expression-là, ou alors pour proposer de la renouveler, de l'élargir. Et voilà, mais ceci dit, alors cette histoire de l'enterrement des funérailles de Jean-Paul Sartre, il se trouve que c'est l'une des choses que j'ai prêté de moi à cette narratrice, entre autres éléments biographiques comme ça qui parsèment le livre. Et c'est vrai que j'avais une petite... en grandissant, j'entendais souvent, mais enfin, évidemment, tu ne t'en souviens pas, mais enfin, nous étions au funérailles de Jean-Paul Sartre. J'en ai conçu une forme de familiarité avec Sartre, avec... j'ai adoré Beauvoir, mais plus tard. Et c'est vrai qu'en réalité, mes premières amours littéraires étaient plutôt américaines. J'ai beaucoup lu de littérature américaine, j'en ai lu beaucoup jeune, très jeune, certains prétendent trop jeune. Je lisais, je vous l'ai dit, des livres qui ne sont pas de mon âge, où il était question d'un tas de choses, de violence, de sexualité. Ça a été une vraie école
Et vous êtes encore attentive à ce qui s'écrit de là-bas, Yakuta Ali Kavazovic, vous ajustez votre focale aussi aux phrases qui arrivent des États-Unis?
Oui, bien sûr, mais maintenant j'ai des liens forts avec la vie ou un pan de la vie littéraire américaine, notamment par mon activité de traductrice. Non, maintenant j'ai plaisir à découvrir d'autres voix, d'autres façons de raconter des histoires. Je pense à Laszlo Krasznahorkai, je pense à Olga Tokarczuk, voilà, qui viennent de l'Est. Et c'est extrêmement banal et ça mérite néanmoins d'être dit. Moi-même, étant issue d'une famille qui vient de l'Est, longtemps, ça ne m'a pas...
Qu'est-ce que vous trouvez
désir, banal là-bas ? Il était plutôt à l'Ouest.
Ah oui, c'est-à-dire de
prendre banal, le contre-pied. Exactement, ce qui est banal, c'est de prendre le contre-pied. Et je l'ai fait très banalement dans l'adolescence.
Vous avez bien fait, du coup.
Et dans ma jeunesse, mais c'est une joie maintenant de pouvoir... de pouvoir me plonger dans les ouvrages et dans les œuvres de ces auteurs-là.
On va parler de votre livre à vous pendant que vous vous remémorez tous les livres que vous n'avez que vous avez le regret de ne pas avoir cité juste après cette chanson du groupe The Do, sortie il y a un peu plus de 10 ans. Il y est question de la nuit, comme dans votre roman. Le titre s'appelle Only Takes a Night et la voix qui chante dit: si je suis un farceur et un idiot ce soir, si je suis une ombre au bar, si je peux faire les pires erreurs que le diable ait jamais commises, je veux faire n'importe quoi, je veux tout perdre d'un coup, il suffit d'une nuit. If I'm a joker and a fool tonight, if I'm a shadow at the bar, no one will listen.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Que peut-on cacher dans une comptine ? Quels éclats d'horreur y transmettons parfois aux enfants ? Que peut-on dire de sa mère et comment en devenir la fille ? Quelles histoires se refilent-on sous le manteau pour continuer de vivre ? Comment rendre son obscurité à la nuit ? Est-ce que connaître un poème par cœur vous donne un pouvoir magique sur la mort ? Est-ce qu'on peut avoir un an de plus en secret ? Et si nos vies sont des fictions, comment être certain de ce qu'on traverse et de la possibilité d'être soi ? Est-ce que les enfants sont écrits par leurs parents ? Est-ce que écrire, c'est être vu ? Il y a toutes ces questions et bien d'autres qui sont agitées dans votre dernier roman, Yakuta Ali Kavazovic, un roman qui agit comme un mirage, un piège délicieux, un vortex de langue, une morsure dans le cou, au grand jamais apparu aux éditions Gallimard. Et maintenant, on en parle avec vous. Alors, je le disais en introduction de ce book club, Yakuta Ali Kavazovic, je n'ai cessé, et encore ce matin en reprenant le livre, qui peut témoigner lui-même de son corps abîmé, qu'il a été beaucoup ouvert, que je ne suis jamais sûre de ce que j'ai lu dans ce texte-là, et qu'il me semble que cette expérience de lectrice raconte ce que vous fabriquez avec votre langue. Et c'est, à mon sens, ce qui en fait la richesse vraiment de l'expérience. Et notamment, un des trucs que j'étais jamais sûre d'avoir lu, c'était la disparition de la mère. Est-ce qu'elle était morte ? Est-ce qu'elle n'était pas morte ? Est-ce qu'elle avait juste disparu du tableau ? Je voudrais donc qu'on commence avec un premier extrait de « Au grand jamais ».
Une femme disparaît. sur la route du lycée, dans un train. Une femme disparaît. J'énumère de mémoire, près d'un musée, près d'un supermarché, près d'un hôtel. Une femme disparaît après une dispute, après un accident de voiture, après une soirée bien arrosée, après un dîner très sage, feutré, durant lequel la lumière des bougies adoucit ses traits, au point que, même présente, elle semble floue, floutée, évanescente. Une femme, mais disons plutôt une fille, disparaît dans son propre lit. La fenêtre est ouverte, de la neige sur la moquette. Dans une version ultérieure de l'histoire, de la pluie. La différence est à mettre compte du réchauffement climatique. À chaque fois, ces disparitions sont l'anomalie. Le vide soudain qui semble se mettre en branle et mettre en branle un récit. L'histoire ne commence que grâce à cela. Une femme qui disparaît. Supposément un fait hors du commun, assez scandaleux, obscène ou tragique pour ébranler le cours des choses. Bien entendu, c'est une façon de parler de la mort qui nous regarde tous. Mais on fait comme si de rien n'était. Comme si c'était l'exception plutôt que la règle. On fait comme si de rien n'était. Une femme disparaît. Quel cliché. Et puis un jour, ce n'est pas un cliché. Un jour, c'est un téléphone qui sonne à une heure indue. Une heure grise où tout le monde dort. Même à votre stupeur, votre enfant qui vous paraît ne jamais dormir. Et à l'autre bout du fil, c'est un ami de la famille. Et il vous demande si vous êtes assise. « Ta mère, vous dit-il. C'est ta mère. C'est le cœur de ta mère qui... »
Yakuta El-Kavazovic, c'est un extrait de « Au grand jamais », votre roman. Et l'idée que quelque chose se répète là dans cette femme qui disparaît, mais ça se répète une fois de plus pour démarrer l'histoire, comme si c'était déclencheur, en fait, des récits. En lisant ce passage, je me suis souvenue que dans beaucoup des contes, en effet, la mère meurt au début et elle est remplacée par une marâtre pour que les choses commencent. Est-ce que c'est aussi comme ça, par ce motif, par cette image, que l'écriture de « Au grand jamais » a commencé?
C'est pas l'écriture qui a commencé par là, mais c'est la lecture qui doit commencer par là. C'est une sorte d'échange qu'on a, les lectrices, les lecteurs, et puis moi, voilà, ou alors moi ou le livre, je sais pas, l'un des deux. Le livre commence, on enlève quelque chose, il y a un déséquilibre. Et là, dans ce battement, dans cette espèce de vide laissé par la chose qu'on a enlevée, quelque chose peut se produire. Et qu'est-ce qui va arriver? Alors, il y a plein de façons de répondre à cette question. Qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, la fille de cette femme qui n'est plus va se demander, mais qui était-elle? Qui était-elle réellement, elle que je croyais connaître et que je n'ai pas connue? Et donc, voilà, il va y avoir c'est un roman de filiation, un roman de transmission, un roman qui vire presque vers le roman d'espionnage, une espèce de, il y a j'espère en tout cas, il y a une espèce de suspense existentiel dans le roman. Mais ça, c'est la première réponse. Parce que l'autre, évidemment, réponse, selon le moment de la lecture où on se trouve et selon le type de lecteur ou de lectrice qu'on est, l'autre réponse, c'est, quelque chose va arriver, et ce qui va arriver, c'est le roman. C'est le texte qui suit. Donc, on enlève un élément, et à la place, on donne. Il est question de don dans le roman, et c'est vraiment cet échange initial, ce don contre don. J'enlève quelque chose pour donner autre chose, et je crois que c'est profondément le pari du roman.
Ça. Et en même temps, comme souvent, en mettant en place une mécanique romanesque, vraiment presque en lançant la machine, on vous voyez faire les gestes là dans le studio et vous décrivez une sorte d'équilibre des forces, on fait de l'espace et il y a une sorte d'espace pour le récit qui arrive, pour la langue. En même temps que vous faites ça, vous parlez du monde, vous parlez de la littérature. Ce n'est pas rien de dire il faut qu'une femme disparaisse pour que l'histoire commence. Parce que tout est possible avec cette phrase. L'horreur est possible, le tragique est possible, la liberté est possible. Il y a beaucoup de motifs de femmes qui disparaissent en ce moment pour leur bien.
Absolument.
Pour leur échapper, pour leur une échappée belle. Mais il y a aussi toutes les silenciations. Enfin bref, d'un seul coup, vous englobez avec ce motif-là quelque chose du monde.
Mais quelque chose du monde, ou plutôt quelque chose du monde qu'on s'est forgé à force de récits, à force d'histoires, nous, avec notre façon occidentale de raconter les choses. Oui, et dans les contes, ça commence souvent par une mère qui meurt, quelqu'un qui se perd dans la forêt. Une petite fille. Et tous ces éléments-là, ces éléments du conte, ils sont présents au début de Au Grand Jamais. Voilà, on le voit ou pas, ça n'a absolument aucune incidence. Mais pour moi, c'était important d'inscrire ce roman dans la lignée d'une façon de raconter les histoires pour essayer de la renouveler, pour essayer de voir si finalement ce motif-là, qui est le motif à la fois des plus grands romans et des plus mauvaises séries télé, Une femme disparaît, voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui, en 2025, et de quel type de disparition vraiment il est question. Et pardon, mais j'en arrive vous disiez la disparition, la mort. C'est vrai que ce sont deux termes parfois interchangeables. C'est vrai que parfois on utilise l'un pour ne pas avoir à dire l'autre. Mais en fait, au fond, Au Grand Jamais, je crois que c'est un roman contre la mort. Et je l'avais pas pensé comme ça avant que vous le veniez chercher cette phrase en moi, Marie. Mais voilà, c'est un roman contre la mort. Ça, je pense qu'on en parlera.
Ah, exactement, aussi. Ce que j'allais dire. C'est-à-dire que la fin du roman est tellement tournée vers la vie et la possibilité d'une vie que, en effet, ça va contre la mort. Mais en vous écoutant, je me dis, c'est aussi un roman qui se demande qu'est-ce que c'est que raconter des histoires. Donc, ok, par exemple, dans la mécanique même de c'est quoi ce travail, on enlève un élément, une femme, et on commence à raconter des histoires. Mais il y a aussi cette manière qu'a la narratrice d'affirmer qu'on grandit dans des histoires, aussi bien qu'on grandit dans des foyers et dans des pays, et que ces histoires ne sont pas toujours les plus vraies, pas toujours les plus séduisantes, ou les plus vraies ou les plus séduisantes. Qu'est-ce que vous travaillez là, Yakuta Elkavazovic, dans ce roman, mais là encore, j'ai envie de dire, sur la place des histoires qu'on se raconte?
Mais pour moi, c'est essentiel. Je crois que nos identités, elles se construisent autant par un patrimoine matériel que par un patrimoine immatériel. Les histoires qu'on se raconte, qu'on nous raconte, celles qu'on adopte, celles qu'on rejette, elles font partie de cette transmission-là. Et c'est quelque chose à quoi je suis très sensible, moi, et c'est peut-être parce que je suis la première personne de ma famille à être née en France. C'est-à-dire que je viens d'une famille immigrée. Mes parents sont arrivés tous les deux en France au début des années 70. Et donc, moi, je suis née en France et j'ai entendu parler dans mon enfance d'un pays où je n'ai jamais vécu. Je l'ai connu autrement, mais je voilà. Et donc, l'avant, c'était aussi un ailleurs. Et qu'est-ce qui restait? Il restait les histoires qu'on racontait voilà, la décision de quitter son pays, la décision de rester dans le pays qu'on était venu découvrir, ce genre de choses. L'enterrement de Jean-Paul Sartre, c'est autre chose. Et donc, j'ai voulu voir dans Au Grand Jamais comment, jusqu'où on pouvait aller, en fait, jusqu'où les histoires qu'on nous raconte nous construisent. Et la narratrice, à un moment, elle dit de sa mère est une poétesse, c'est une femme coupée en deux, la mère de la narratrice, c'est une femme qui a été une poétesse pleine de désirs d'aventure dans sa jeunesse, qui arrive en France et qui s'éteint. Sa dernière disparition n'est pas sa première disparition. Elle s'éteint, elle s'efface, et sa fille, elle a deux façons de voir cette ligne de vie, ce parcours de vie. La première, c'est de le voir sous un angle presque sociologique, en fait, comme une femme de plus, rattrapée par les contingences domestiques, rattrapée par la vie familiale, rattrapée les circonstances, y compris économiques. C'est une version de l'histoire, elle est valable, elle est tout à fait légitime. Mais il y en a aussi peut-être une autre. Et dans le cas de ce duo mère-fille, effectivement, à cet effacement, derrière cet effacement, il y a une vraie volonté. Il y a une espèce de discipline du silence que la fille ne s'explique pas. Comment peut-on écrire de la poésie toute sa jeunesse et avoir en plus une réception formidable, voilà,
être, ce qui est le cas de la mère.
Ce qui est le cas de la mère, être une jeune poétesse acclamée dans un pays d'Europe de l'Est où la poésie compte énormément à ce moment-là. Comment est-ce que c'est possible de renoncer à ça? Est-ce que ça n'est pas, est-ce que c'est pas comme de dire je renonce à la couleur de mes yeux? C'est voilà. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. L'histoire est porteuse de renonciation, de renoncement à la poésie. Ça m'intéressait que pour une fois, la renonçante, ce soit une femme. Que ce soit une femme et que ce soit une femme d'origine étrangère et que ce soit une femme qui renonce à la poésie, mais finalement la poésie ne renonce pas à elle.
Oui, et d'autant qu'une des hypothèses, et j'espère ne rien trop dévoiler, Yakutali Kavazovic, c'est que renonçant à la poésie, elle ne l'a pas abandonnée parce qu'elle l'a semée dans les corps. Elle a semé des poèmes secrets, notamment dans le corps de sa fille, mais pas que, potentiellement dans le corps d'anciens camarades, de jeunes poètes. C'est aussi un roman, on n'aura pas le temps de tout déplier parce qu'il foisonne d'images, mais c'est un roman où il est beaucoup question des utopies et des élans qui agitent les jeunesses, qu'elles soient des années 70 ou des années 2000, qu'elles soient pour garder l'obscurité de la nuit, pour ralentir ou pour défendre de la poésie contre de la surveillance. Vous parlez d'une femme potentiellement endormie par la vie domestique, c'est un livre qui procède par tableau, par vision. Elles sont parfois floues, parfois très nettes. Justine, l'auditrice du Book Club, a été très touchée par les gestes domestiques et la grammaire des gestes que vous écrivez.
Bonjour le Book Club, bonjour Yakuta Ali Kavazovic. J'ai donc lu Au Grand Jamais et c'est une lecture qui m'a vraiment traversée. Il y a un passage en particulier qui m'a bouleversée. C'est celui où vous parlez de la grammaire secrète de l'hygiène. Ce langage des femmes que vous décrivez comme fait de gestes du quotidien, de propreté, de non-dit. Un langage que leur mari, leur fils ne se donnent pas la peine d'apprendre ni même de comprendre. J'ai trouvé ça d'une justesse foudroyante. En vous lisant, j'ai eu l'impression que vous mettiez enfin des mots sur une solitude immense, une solitude que des générations de femmes, comme ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ont pu ressentir sans jamais pouvoir la nommer. Est-ce que l'écriture de ce passage a été pour vous un acte de réparation, un acte de rébellion, ou plutôt une forme de libération ? Merci beaucoup pour votre réponse.
Et merci Justine, et merci d'être la première à poser vos questions au Book Club. On est ravis, ça nous touche beaucoup quand même, ces questions si précises, ces lectures si fines. On vous écoute, Yakuta Ali Kavazovic.
Merci beaucoup, c'est une très belle question et c'est un passage qui est très important pour moi dans le livre. Alors, est-ce que ça a été une réparation ? Je sais, on ne peut pas... En fait, pour moi, oui, ça m'a réconciliée avec le fait que j'avais ce qu'on appelle les arts ménagers en aversion. Et c'est une aversion qu'on m'a transmise. Voilà, je suis, et ça je le partage aussi avec la narratrice, je suis la fille d'une femme qui n'a jamais cherché à me transmettre cette grammaire-là. Mais enfin, j'ai dû l'apprendre, qui en a transmis d'autres, et que j'ai dû apprendre par moi-même. Et... J'ai néanmoins beaucoup observé les femmes de mon entourage. Petite fille, on est toujours en train de regarder les femmes autour de soi. Les mères, les tantes, les mères des copains. Enfin, je les voyais tout nettoyer. Et je trouvais ça absolument extraordinaire, cet acharnement. Cet acharnement, et puis bien plus tard, je m'en suis souvenue de ces gestes d'une minutie... voilà, mais il y a quelque chose vraiment de la tueuse d'élite hein, dans la façon dont une femme peut interagir avec une cuisine. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça dit, ça ? Qu'est-ce que ça dit ? Et en fait, c'est l'un de ces arts féminins qu'on n'a pas reconnu pour ce qu'ils étaient. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu les arts textiles très longtemps. Vous le savez bien, Marie. Bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Et en fait, ce sont des façons de parler du monde dans lequel on est. Ce sont des façons d'aimer. Ce sont des façons de haïr. Mmh. Ce sont des façons d'être emprisonné ou de se libérer de quelque chose. Et pour moi, ça n'a pas été une réparation, mais ça a été une fierté, je pense, de réussir à écrire précisément quelque chose dont je n'avais que l'intuition Et c'est une vraie fierté d'écrivaine, je crois.
Et d'en parler en termes de grammaire.
Mais il n'y a pas que le langage pour dire le monde. On est tout le temps en train de dire, de dire le monde, de le, et en le disant, évidemment, on le change un petit peu. On agit sur lui. Et ça me bouleverse de penser à toutes ces choses très importantes qui sont dites sans mots et qui sont répétées et qui sont encore répétées jusqu'au moment où quelqu'un les comprendra. Et oui, peut-être qu'à ce moment-là, quelque chose se lèvera. Voilà.
On y viendra parce que vous parlez d'un roman de la transmission et de bien des moyens secrets de transmettre les choses belles comme les choses d'horreur, les traumatismes comme des manières de faire avec le monde, des manières les plus fines de faire avec le monde, notamment des comptines, des images, des livres, des souvenirs. Et c'est quelque chose de très important. Je le disais, il y a une menace quand même avec ce « haut grand jamais » qui plane sur ce livre, la menace de la fin, de la disparition, de la fin de l'écriture. Vous commencez aussi, Yakuta Alikavazovic, ce roman en décrivant tout ce qui disparaissait au moment où cette narratrice se met sur la piste de l'énigme de sa mère. On va écouter l'écrivaine Hélène Cixous parler de l'idée d'écrire.
Écrire, c'est vraiment écrier. C'est crier de toutes ses forces, et si fort que cela peut dépasser notre capacité d'ouïe et apparaître comme silencieux, mais ce ne sont que cris, ou bien encore crières, un mélange de cris et de prières. Alors oui, ma démarche, enfin chancelante et obstinée, elle est une façon de maintenir le cap, malgré les effacements, malgré les trous de mémoire. C'est une défaite à laquelle on se plie, non pas pour disparaître, mais pour explorer ce que la défaite nous réserve, comme parfois ressource de triomphe caché. Je pense que d'ailleurs, la personne qui écrit, c'est-à-dire qui explore, qui descend ou ascend, est une sorte de passeur ou de passeuse entre les mondes. Et sans cesse, on effleure la fin, on l'effleure. Et on répond aussi à une sollicitation qui vient de la finitude, de la mort. Mais on survit. Et je dois dire que la condition de la survie, enfin de survivant, qui est celle de l'écriture, c'est vraiment un mélange de douleur et une sorte d'obligation, un appel à relever.
Bon, comme souvent, c'est dense, la parole d'Hélène Cixous, 2014, au micro d'Alain Weinstein sur France Culture. Et il y a plein de choses, effleurer la fin, l'idée de crier, mais finalement d'être silencieux, des motifs qu'on retrouve dans votre roman. Il se trouve que la mère de la narratrice poétesse arrête d'écrire, qu'à un moment donné, une amie lui annonce dans un étrange repas qu'elle arrête aussi d'écrire. Je me suis presque dit à la fin que c'était un roman aussi de cette crise-là, de la tentation de ne plus. Toutes les tentations de ne plus.
C'est vrai. C'est vrai.
Qu'est-ce que vous faites de tout ce que vient de déplier Hélène Cixous dans cette archive Yakuta Alikavazovic?
C'est beau. Tout ce qu'elle dit est toujours beau. Et il y a toujours, ça ouvre toujours plusieurs couloirs. Alors,
Choisissez-en un.
Je réfléchis par image, moi. Et l'image qui me vient en tête quand j'entends Hélène Cixous, c'est alors ce cri silencieux, si fort qu'il est silencieux, je vois très bien, et c'est ce dont Justine parlait tout à l'heure avec les arts ménagers, avec le fait de laver sa cuisine et de ne pas être entendue. Voilà, ça aussi, c'est un cri. Mais en fait, ça m'évoque le verre brisé. Vous savez, ça m'évoque les cantatrices, ça m'évoque les ultrasons. On les entend pas, ça va tellement haut, on les entend pas. Mais ça a un effet, ça casse le verre. Et le verre, ça m'évoque, je vous ai pas menti quand je vous disais que je pensais par image, ça m'évoque le plafond de verre. Ce plafond qu'on est tout le temps en train d'essayer de repousser. Les femmes, le plafond de verre évidemment professionnel, mais enfin pas que les femmes, il y a plein de cas de figure où on est comme ça, comme enfermé dans une espèce de galerie des glaces, et où la meilleure façon de s'en sortir, c'est de donner un grand coup et de tout péter.
Il y a... Elle dit aussi, Hélène Cixous, celui ou celle qui écrit est dans une posture de survivant. Je ne crois pas qu'elle le dise que à l'échelle du concret, mais aussi que écrire, dit-elle, c'est répondre à l'appel de la faim, à l'appel de la mort, et peut-être y répondre contre et survivre en écrivant. La question de survivre est présente dans Au Grand Jamais. Il y a un grand-père qui survit mystérieusement à un massacre de masse. Il y a cette femme qui survit à son exil. Il y a plein de survivants comme ça. Sacha, il a survécu aussi à une sorte de maladie mystérieuse. Est-ce que vous diriez, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, d'écrire contre la mort, Yakut Akevazovic, que Au Grand Jamais survit de quelque chose?
Mais sans doute. Alors ça, c'est mon angle aveugle là. C'est l'endroit de moi-même où je me connais pas si bien que ça. Je pense que ça a profondément à voir avec le fait que j'ai assisté à la disparition d'un pays. Quand j'étais jeune adolescente, le pays de mes parents, la Yougoslavie, celui qu'ils ont quitté pour venir en France, ce pays a disparu. Et l'idée qu'un pays puisse disparaître, que quelque chose d'aussi concret puisse disparaître, ben ça, je l'avais appris à l'école. Enfin, voilà, c'était des choses. Mais enfin, apprendre quelque chose et le comprendre, l'éprouver, c'est deux choses très différentes. Et je pense que cette déflagration à ce moment-là de mon parcours fait qu'il y a forcément un après. Il y a forcément une espèce de temps un petit peu fantomatique, un peu hanté par quelque chose qui a disparu. Et de temps en temps, j'ai des espèces de berlues. Je disais tout à l'heure à une amie pour venir ici. Je suis sortie de chez moi, classique.
Pas mal.
Et je cherchais mes clés. Et j'ai cherché mes clés très longtemps, alors que mes clés étaient là où elles sont toujours. Mais je ne les ai pas vues. Mon œil les a effacées. Il m'arrive des choses comme ça. Parfois, j'ai l'impression que les choses ne sont pas là où elles devraient être. Et ça me fait ça me fait un coup au cœur et ensuite le monde revient là où il est, revient
et ça,
à sa bonne place.
Je parlais en introduction de l'émotion qui me saisit, et c'est le cas toujours avec vos textes, au détour d'une phrase. Quoi. J'ai l'impression que je suis là, je suis intacte, j'avance et tout. Je me fais vraiment attraper. Ben, c'est souvent dans ces expériences d'étrangeté que, voilà, dont vous rendez compte de choses qui apparaissent, disparaissent, de mirages, de fantômes. Et il y a un personnage qui s'appelle Thomas, qu'on rencontre dans la vie d'enfance de la narratrice, et puis ensuite dans une évocation très mystérieuse d'une nuit précise, d'une soirée précisément. C'est une des trames du texte qui m'a le plus bouleversée. Je voudrais qu'on écoute, puisque ça a à voir avec la guerre au loin et la disparition au loin, un autre extrait de Au Grand Jamais.
Deux jeux étaient nos favoris. De la forêt, j'ai parlé plus haut. Il y avait aussi le jeu du sang, qui était le plus morbide et le plus excitant de tous. Et pour y jouer, il fallait s'assurer une certaine intimité, un certain secret, car quelque chose dans ce jeu-là était, nous le sentions, plus à même de susciter la réprobation, alors qu'il était plus calme que les autres, plus silencieux, plus respectueux des murs, des meubles et des bibelots. Nous en avions honte, je crois. Je crois aussi que cette honte nous excitait. Il était question de gélules de faux sang, de vampires et de dévoration. Il était question de la fin de l'innocence, d'un pouvoir écrasant. La victime, ballante, était incapable de résister au désir de l'autre qui la mangeait, qui lui mangeait le cou, s'abandonnant à la volonté implacable qui la buvait, jusqu'à la dernière goutte. Que dire de ce jeu auquel nous pouvions jouer, mais dont il était interdit, même entre nous, de parler? Qu'en dire avec le recul du temps? Sa dimension érotique, sa violence. Je ne sais pas quoi dire de ce jeu. Sinon que les enfants ont une façon particulière de sentir ce dont on ne leur parle pas et de savoir qu'on ne le leur apprend pas. Ce jeu entre nous, à la fin des années 1980, au début des années 1990, c'était une guerre fratricide en quelque chose et quelque chose des tensions politiques alors à l'œuvre dans ce pays envers lequel nous n'éprouvions ni l'un ni l'autre aucun sentiment d'appartenance, ni même d'attachement, quelque chose malgré tout de l'ambiance là-bas, de ce qui se tramait, avait trouvé le moyen de ressurgir entre nous, ici.
Deux enfants qui, dans une maison ou un lotissement en banlieue parisienne, à Koutali Kavazovic, au début des années 90, se mordent dans le cou jusqu'au sang et partagent comme ça, c'est pas complètement dit dans le roman, mais des origines de pays de l'Est qui, à ce moment-là, se mordent aussi dans le cou. C'est l'une de ces transmissions silencieuses que vous mettez à jour dans Au Grand Jamais, et elle est sidérante, elle est bouleversante, il n'y a pas que ça. Comme si vous aviez suivi tout ce qui avait sué dans les vies françaises de la guerre au loin.
Mais oui, je sais pas, c'est une façon d'être. Moi, je suis très timide, je suis très observatrice, et j'aime regarder ceux qu'on regarde peu et ceux qu'on n'écoute pas vraiment. J'aime regarder les femmes. C'est moins vrai maintenant qu'on regarde pas les femmes ou qu'on les écoute moins. Mais bon, j'aime regarder les femmes surtout quand ce sont des ménagères, en fait. Ça me plaît, cet endroit-là. On en a parlé tout à l'heure. Et ce que j'aime aussi profondément, c'est regarder les enfants. Et c'est regarder les enfants quand ils croient qu'on ne les regarde pas, quand ils croient qu'on ne les écoute pas. Et c'est, on se rend compte de toute la vie secrète de l'enfance et de toute la complexité du monde de l'enfance et de la façon dont les enfants n'arrêtent pas de dire des choses sur le monde qu'ils reçoivent, sur la façon dont ils le vivent, sur voilà. Et là, c'est un exemple, ce passage que vous avez lu, c'est un exemple de ça. C'est quelque chose qui est en apparence contingent, détaché de ce qu'on appelle la grande histoire, ce qu'on appelle la politique, ce qu'on appelle je sais pas quoi encore, et qui en réalité se fait chambre d'écho, se fait vecteur d'expression pour quelque chose qui est une atmosphère collective. Et ce va-et-vient entre le collectif et le particulier, en fait, on le reçoit comme ça, on le reçoit par capillarité. Et quand on regarde les jeux d'enfants, c'est absolument flagrant. Les jeux d'enfants parlent du monde dans lequel ils vivent et parlent de, disent presque ce qu'ils en pensent, en fait. Il y a une espèce de façon de l'enfance de s'approprier quelque chose qui est trop grand pour elle de cette façon-là. Donc oui, je crois vraiment que les récits, les histoires dont on parlait au début, Marie, que ce ne sont pas la seule façon de transmettre de la connaissance et que parfois même, ils occultent des choses. Et qu'en fait, il faut le travail aussi de comme dirait Hélène Cixous, la personne qui écrit, le travail de la personne qui écrit, c'est d'aller chercher sous les clichés. Parce que les clichés, c'est une expression visuelle, cliché. Mais en fait, les clichés, ça peut aussi être des histoires. On a tellement pris l'habitude de raconter une histoire d'une certaine façon, on ne se demande plus ce qu'il y a derrière, ce qu'elle veut dire réellement, pourquoi elle est racontée de cette façon. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller réinterroger l'histoire. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de regarder comment nos corps savent les choses que l'on subit.
Et parfois, les corps savent quelque chose et la narratrice n'est pas en mesure de traduire ce que le corps a su ou ce que le corps a senti, notamment dans toute l'histoire autour du fantôme de Thomas. Il y a une grande incertitude qui plane en permanence, jusqu'au bout presque, ce qui s'est passé un soir où ils avaient grandi. Ces deux-là, la narratrice et Thomas, et une robe aurait fondu et des jeunes gens se seraient réunis dans la nuit. Et on a une porte, un porche, la nuit, la ville, bon, et ça tourne dans notre tête et on sait jamais vraiment et on peut se raconter tout à partir de ça. Et peut-être ils ont fait l'amour, peut-être il l'a tué, peut-être elle l'a tué, peut-être il a disparu, peut-être bon.
Mais vous allez super loin.
Ouais, je vais très loin. Mais parce que ça permet. En tout cas, je veux revenir à ça pour parler peut-être de la construction et de la langue. Il y a quelque chose d'incertain. Et moi, je me suis même dit, ce qui me plaît, c'est d'être prise au piège. Je me sens prise au piège, en fait, par un savoir-faire romanesque. Je me sens prise dans un vortex de langue, d'images, de tourbillons qui fait que j'attrape rien. Avec certitude, je veux dire.
Alors, ça n'est pas une question, mais je vais y répondre quand
c'est
même.
C'est vrai.
Je sais. Alors moi, je parlerai pas tant d'incertitude. Je parlerai peut-être d'ambiguïté. Et je parlerai d'un espace d'ambiguïté où plusieurs choses en apparence contradictoires sont possibles. Notamment dans le cas des quelques fantômes qui traversent le roman, présence et absence, vie et mort. Qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est cette zone comme ça de clair-obscur. Alors, encore une fois, je pense en images, mais vraiment une zone, un clair-obscur entre chien et loup, où les choses ne sont pas aussi évidentes qu'on croit. Et ça, c'est vraiment c'est l'endroit où je suis souvent dans le monde. Souvent, je me dis, mais c'est pas tout à fait comme ça, si, les choses. Et c'est aussi l'endroit où je me mets pour écrire. Parce qu'en fait, c'est à cet endroit-là qu'on peut éclaircir les choses, qu'on peut explorer les non-dits, les zones du coup d'ombre, c'est littéralement une zone d'ombre, et on y va avec sa lumière qui est celle du roman, qui est celle de la langue, qui est celle de ces scènes comme ça, où en fait c'est important qu'il y ait des choses qui soient pas complètement arrêtées, parce que c'est dans ce vacillement-là que les lecteurs se les approprient complètement.
Ils font n'importe quoi, imaginez.
Voilà, ils tirent ça, on connaît votre goût pour les sensations fortes, Marie. Ouais. Et donc voilà, qu'ils tirent ça, mais qu'ils le tirent vers l'endroit où eux veulent aller.
Bien sûr.
En fait, ça vous dit quelque chose de vous, presque plus que du texte, sans doute. Ou en tout cas, le roman devient un endroit où vous écrivez une partie. Petite partie. C'est mon livre, c'est moi qui l'ai écrit.
Mais liberté.
Mais vous, en tant que lectrice, vous avez la liberté de vous mettre à l'endroit de votre désir.
Vous parlez de ce clair-obscur et il y a dans l'enfance un détail important pour la narratrice qui grandit dans un appartement où les lumières sont très tamisées. Mmh. Au grand jamais, termine dans une autre lumière. Celle-ci, elle est assez douce et la scène, elle est très claire pour moi et vraiment, je la garde. Ce sont une mère et un enfant qui recollent des assiettes, font des puzzles, recollent des verres brisés. Vous disiez, Yakuta Alikavazovi, que peut-être au grand jamais, c'est un roman contre la mort, mais le fait que ça se termine si paisiblement avec un enfant dans des gestes comme ça, très simples, et je me suis dit, c'est vraiment un roman vers la vie, quoi.
Vous vous rendez compte que vous avez raconté la fin,
ah
Marie?
Mais ça va, j'ai presque rien dit d'une certaine manière.
Mais c'est pas grave du tout. Me regardez pas avec ses yeux. Enfin, je crois pas. Les auditeurs et auditrices nous diront si c'est grave.
Tout à l'heure, vous nous avez dit oui. Parfois, je lis la fin des bouquins.
C'est vrai que parfois je lis la fin des bouquins. Mais c'est vrai aussi que de ce clair-obscur qui est presque ma zone de confort ou d'inconfort. C'est l'un de ces endroits où les contraires coexistent. C'est un inconfort qui est un confort et inversement. Ben en fait, le but, et vraiment le but de tout le roman, parce qu'il n'est pas écrit sans intention, ce roman, c'était de faire la place à une lumière possible. Et une lumière qui soit la plus naturelle possible. Et l'un des plus beaux retours de lecture que j'ai eu, c'est une amie très chère qui a lu le manuscrit et qui m'a appelé après et qui m'a dit... Je sais pas, c'est comme un grand soleil qui se lève.
Le book club continue. Et à cette heure-ci, régulièrement dans votre book club, on va partager des initiatives, des rendez-vous, des festivals, des promenades en lien avec le livre et la lecture. Et si vous voulez nous en faire part, vous pouvez nous écrire à lebookclub@radiofrance.com. Aujourd'hui, Yakuta, on voulait vous parler de la maison Jacques Prévert qu'on peut visiter en famille. Les enfants sont invités à parcourir le village d'Aumonville-la-Petite, c'est en Normandie, dans lequel Jacques Prévert a vécu ces dernières années. En cheminant jusqu'à la maison, ils peuvent découvrir, ses enfants, le hameau du Val à travers des jeux poétiques. Ça s'adresse plutôt à des enfants de 8 à 12 ans et à celles et ceux qui les accompagnent, bien sûr. C'est sur réservation. Et puis la maison Jacques Prévert, c'est à la fois une maison d'artistes, mais c'est aussi un musée, donc on peut compléter la promenade par une visite. Vous nous écrirez pour nous raconter comment ça s'est passé pour vous.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Cette saison du Book Club qui recommence est aussi une saison du jeu, du grand jeu même, des pages musicales. Est-ce que vous savez à peu près à quoi on joue quand on fait ça, Yakuta Alikavazovic, ce grand jeu?
Redites-moi et redites-nous.
Il s'agit de chercher des évocations musicales dans tous les livres qu'on lit. Mais vraiment, toute forme de livre, à chaque fois qu'un air musical ou l'évocation d'un air musical surgit, les auditeurs et auditrices peuvent nous les envoyer ou par le compte Instagram ou par le compte, l'adresse mail. On en a trouvé plusieurs. Il y a une place qui est donnée aux chansons et aux comptines dans votre livre, dans Au Grand Jamais. Et notamment, cette image de pont et de piliers de pont dans lesquels sont emmurés vivants des enfants qui sont libérés à chaque fois que, bien des années après, on chante une comptine qui les évoque. La chanson, comme toutes les formes qui résistent au temps, même les plus simples, même les plus négligeables en apparence, est ambiguë. Le pont de Londres s'effondre, ma belle dame, s'effondre-t-il une seule fois ? S'effondre-t-il à chaque fois ? C'est un fait historique que les ponts cèdent, sont brûlés, sont détruits. Celui dont il est question ici a été mis à bas par les Vikings, les incendies, les accidents, puis reconstruit, encore et encore. Mais c'est d'une autre archéologie qu'il est question ici, celle qui cherche, sous les mots, sous les mythes, une vérité dissimulée dans les jeux, dans les rimes, et bien plus sombre qu'eux. Cette chansonnette est le seul endroit où les enfants morts vivent, leur vie d'après, leur vie d'avant, le seul endroit où ils ne sont plus seuls, sous les briques, dans le noir, et le bruit des vagues de l'eau qui frappe sous eux. Cette chansonnette, le seul lieu où quelque chose de l'enfance leur est rendu. Des siècles plus tard, portés par les souffles et les danses d'autres enfants, ils reparaissent le temps d'une strophe à l'air libre. Pour cette vie, cette survie paradoxale, la condition est paradoxale elle aussi. Il faut que les enfants, les miens, les vôtres, vous, moi, jouent sans savoir qu'il y a là quelque chose à savoir. Il faut qu'ils se souviennent sans se souvenir.
London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. We sang this little rhyme long ago in nursery time. Come, let's be kids again, sing that old refrain. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. I'm like the bridge is true, cause I'm falling just for you. I'll say it with a kiss, change a word like this. Go and get a wedding gown, wedding gown, wedding gown. Here in town we'll settle down, my fair lady.
Merci beaucoup, Yakuta Alikavazovic, d'avoir ouvert cette saison du Book Club de France Culture.
Merci, Marie Richeux.
On a parlé de votre roman Au Grand Jamais, paru aux éditions Gallimard. Il faut plein de personnes pour fabriquer une radio publique de qualité, chacun chacune avec sa spécialité et son savoir-faire. Et tout cela convergent, ça donne les heures de programme qu'on vous concocte chaque jour. N'hésitez pas du tout à nous écrire si vous voulez qu'on vous raconte la manière dont on fabrique cette radio. On se fera un plaisir de réfléchir à ça. Au son, donc aujourd'hui, c'était Nicolas Le Roulet. À la réalisation, Vivien Demeyer. Et merci à Marianne Chassor, Cyril Marchand, Mathilde Wagman, Jeanne Aléos, qui mettent à penser, organiser, préparer les émissions chaque jour. Et bienvenue à Garance Roubieux, qui commence son stage à nos côtés. Restez avec nous sur France Culture.